Nous accueillons, pardon, maintenant Olivia au 3921. Bonsoir Olivia.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous, Olivia ?
Du 92, à Paris.
D'accord.
Pas loin de Paris.
Très bien. Et quel âge avez-vous ?
52 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi, Olivia.
Écoutez, moi, j'avais envie de vous parler d'autisme.
Oui.
Je sais que vous êtes sensible au handicap et j'avais envie d'évoquer ça avec vous.
Mmh. Et je vous écoute.
Écoutez, moi je suis maman d'enfants autistes, j'ai une association qui s'appelle SOS Autisme que j'ai créée après avoir eu un véritable parcours du combattant avec mon fils Ruben. Voilà, j'ai appris le diagnostic quand il avait 4 ans et demi et puis à ce moment-là ça a été un peu la galère pour trouver des médecins, une prise en charge pour affronter le regard des autres. Ça a été tout un chemin. Et puis, voilà, une fois que la situation était un peu plus contrôlée, j'ai décidé de me battre aussi pour les autres.
Oui. Quel âge a Ruben aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il a 14 ans.
D'accord. Et lorsque vous dites que cela a été un vrai parcours du combattant, à partir donc du diagnostic posé, en fait, vous vous êtes senti seul dès ce moment-là ?
Disons qu'on se sent tout de suite isolé. On ne sait pas à qui en parler. D'abord parce que tout l'entourage, finalement, les gens que vous aimez bien, vos amis, votre famille, ne comprend pas obligatoirement les choix que vous faites. Et puis, regarde aussi le handicap avec une note assez négative. Voilà, l'autisme, si vous voulez, moi je le vois aujourd'hui comme une différence. Mais c'est vrai que beaucoup de gens vous disent « Ah, donc il est malade ». Mais non, c'est pas une maladie, l'autisme. C'est juste une différence, une autre façon de voir le monde, une autre façon de penser, une autre façon de se comporter. Mais c'est vrai qu'on est dans une société tellement uniforme que parfois c'est compliqué d'imposer sa différence. Donc c'est pour ça que je me suis lancée aussi dans ce combat, parce que pour faire accepter nos particularités. On en a tous.
Bien sûr, bien sûr. Et ces particularités créent de toute façon des richesses. Hein. En termes, vous évoquez un parcours du combattant. Ce parcours, en fait, fait d'abord grandir en tant que parent aussi. J'ai recueilli beaucoup de témoignages de pères et de mères d'enfants porteurs de handicap, hein, pas que d'autisme. Et c'est vrai que toutes ces situations ont finalement débouché pour pas mal d'entre eux sur une meilleure connaissance de soi-même et puis aussi de la force insoupçonnée qu'on peut avoir dans des situations où on aurait pu nous dire avant, il va vous arriver ça, jamais en fait toutes ces personnes n'auraient pensé être capables de faire face. Or, beaucoup d'entre elles font face et avec brio, je trouve. En fait, il y a un apprentissage de soi-même énorme.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se sent à la fois fragile et on se sent presque comme avec une mission de l'aider à vraiment aller plus loin, devenir autonome, à l'aider dans tout ce qu'il fait. Et puis on se sent plus fort et puis on trouve vraiment le sens de la vie. C'est-à-dire que toutes les choses qui peut-être nous paraissaient à l'époque importantes, notre carrière, nos vies, notre vie sociale, finalement tout ça disparaît et puis on cherche l'essentiel et puis on a vraiment la direction, le sens de nos vies. Et c'est vrai qu'un petit bout de chou comme ça, ça vous donne finalement vous consacrez qu'à l'essentiel et le reste paraît bien dérisoire. Même vos envies de carrière, on a tous des rêves personnels, etc. Et finalement c'est vrai que on se réunit en famille, on est sur la même ligne et puis on avance ensemble. Donc c'est vrai qu'on s'oublie un peu aussi parfois, mais c'est un autre chemin, on va dire.
Oui, oui. Il y a obligatoirement un moment où on s'oublie. Je suppose que cela vous est arrivé aussi. Je pense qu'on a perdu Olivia d'un seul coup. Bon, on va on va récupérer Olivia, hein. Il y a eu un petit problème technique. Profitons-en pour écouter de la musique. On va écouter Alain Souchon, Jaloux du soleil. On a récupéré Olivia. Pardonne-moi Olivia, il y a eu un petit problème technique. Là, d'un seul coup, j'ai vu un gros gris sur mon écran, qui est gris lui aussi d'ailleurs. Donc, j'étais en train de parler dans le vide. En fait, j'étais en train de vous demander si vous aussi, à un moment, mais je suppose que c'est le cas, vous aviez été obligé de vous oublier. Et en fait, à quel moment exactement cela correspondait à quel moment ?
Mais disons que moi, j'avais déjà deux grandes filles. Donc, si vous voulez, j'étais, dans une... C'est mon petit dernier. Donc, j'étais dans une progression de carrière, on va dire. Je suis journaliste, j'écris des livres. Donc, voilà, je travaillais sur une autre antenne. Et donc, c'est vrai que j'étais heureuse de travailler. Donc, j'aspirais évidemment à continuer de bosser. Et à un moment donné, ben, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous n'avez pas le choix. Parce que malheureusement, évidemment, je suis très féministe, mais c'est toujours les femmes qui doivent s'arrêter en général, parce qu'on est quand même un petit peu moins payées que les hommes. Donc, j'ai pas eu le choix, j'ai dû m'arrêter et puis et m'occuper de mon fils. Alors, c'est vrai que c'est un sacrifice parce que c'est normal. On a aussi, on a fait des études, on poursuit un chemin aussi pour soi.
Oui, mais vous évoquez tout de même un point. Sensible. Pourquoi, en fait, dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui s'arrêtent ? Parce que c'est encore majoritairement et majoritairement vraiment de manière importante le cas, je pense.
Oui, c'est ça. Bah, si vous voulez, déjà, dans le monde du handicap, souvent, parfois, les papas s'en vont, donc c'est vrai que les mamans se retrouvent toutes seules. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais malgré tout, étant donné que le calcul est vite fait, on se dit, lequel gagne plus, donc c'est toi qui t'arrêtes. Et donc, c'est bien sûr que ça marche comme ça, et puis il y a le côté aussi, il y a le côté maternel, c'est-à-dire qu'on se sent peut-être aussi vraiment responsable de cet enfant, de ses progrès, on a envie de s'occuper de lui, et donc de toute façon le choix il est vite fait aussi, donc c'est un ensemble de choses, je pense.
Ouais. Vous avez pu continuer à écrire un peu ou reprendre l'écriture après
Oui, alors j'ai transformé en fait, parce qu'on arrive aussi, et beaucoup de mamans le font ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on arrête la carrière pour laquelle on avait bossé tant d'années, et puis on se transforme, on essaye de trouver autre chose, parce qu'on peut pas rester sans rien faire, et puis c'est aussi notre bouée de sauvetage. Le journalisme c'est devenu des livres, et j'en suis à mon 8e aujourd'hui, donc j'en suis, ça me rend très heureuse aussi d'écrire comme ça. Après, l'écriture c'est un moment de solitude, donc c'est vrai que le côté un petit peu social, à la radio, etc., évidemment me manque encore aujourd'hui, mais disons que c'est la vie, c'est comme ça, on se résigne aussi à ça, parce que c'est, on se dit c'est ce chemin là, c'est notre chemin, donc maintenant il faut s'y faire, donc on cherche d'autres choses pour trouver son bonheur.
Je profite de vous avoir au téléphone pour vous poser une question, si toutefois, bien sûr, vous pouvez m'y répondre. J'ai regardé, lors du dernier confinement, le premier confinement, le film Hors Normes. Ce film magnifique, hein, qui évoque le sort de ces associations qui s'occupent de ces enfants autistes, de ces parents aussi, hein, parce qu'on parle des enfants, mais on doit toujours penser que avec ces enfants, il y a une famille qui se bat souvent. Est-ce que ce film, d'abord vous l'avez vu, est-ce qu'il vous a semblé proche d'une réalité que nous vivons aujourd'hui en France ?
Oui, bien sûr. Il m'a semblé réaliste, de beaucoup de familles. Après, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu le même regard que vous avez peut-être pu avoir. Moi, je n'ai pas aimé ce film. Alors, je ne l'ai pas aimé, peut-être parce que je suis tellement baignée dans le milieu de l'autisme, avec mon association, avec mon fils, etc. Donc, peut-être que je n'ai plus envie de voir ça au cinéma. je crois que
oui,
c'est ça
oui,
aussi.
D'accord, j'entends. Oui.
Voilà, c'est cette image aussi que ça me... Voilà. Mais évidemment, il était très réaliste. Il y a eu aussi le film de Samuel Le Bihan, il y a eu le film de aussi sur la vie de Francis Perrin. Tout ça, c'est évidemment, bien sûr, ça raconte nos parcours. Donc c'est important que ces films évidemment existent pour d'abord sensibiliser les autres, pour que que la société puisse un peu s'ouvrir à cette différence et puis qu'ils soient au courant de ce qu'on vit. Mais si vous voulez, c'est vrai que moi j'aime bien montrer le côté positif. J'aime pas voir la souffrance,
non, mais
même si ça fait partie aussi de notre quotidien. Hein,
ce film, il évoque tout de même une association hein, dans ce film,
oui,
de gens qui sont complètement dévoués à des familles qui, en plus, en ont réellement besoin, hein, puisque pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu ce film, on évoque une association qui s'occupe d'enfants autistes dans les quartiers défavorisés hein, de Paris et de la banlieue. Et ça soulève quand même une problématique qui nous paraît aujourd'hui, en 2020, en France, terrible.
Il y a plusieurs problématiques. C'est-à-dire que l'autisme, on a des problèmes quand ils sont tout petits parce qu'il faut se battre pour les inscrire à l'école. Même si aujourd'hui, même si depuis 2005, c'est inscrit dans la loi, en fait, la loi, elle n'est pas appliquée tout le temps. Donc, il faut quand même que les parents aillent se battre pour que nos enfants, nos enfants maternels aient le droit vraiment d'aller tous les jours à l'école. Donc, on est là à se battre sur une matinée d'école en plus. Donc ça, c'est déjà le départ. Et puis après, on se bat pour trouver une prise en charge, pour trouver un accompagnant. Et puis quand il n'y a pas d'accompagnant, ben, on vous rend votre enfant en disant ben, il n'y a pas d'accompagnant, donc il est obligé de rester à la maison. Puis après, votre enfant, il grandit, il devient ado, et là, il n'y a plus rien. Et alors, quand il est adulte, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a qu'un 1% des personnes autistes qui travaillent. Vous voyez, donc 1%, c'est pas beaucoup. Donc, si vous voulez, à chaque étape en fait de la vie de cet enfant et de son parcours, il y a des difficultés qui arrivent, des difficultés nouvelles. Ce sont les parents qui les règlent ces difficultés.
Mmh.
C'est pas l'État. Voilà. Et donc c'est du coup les parents évidemment passent leur vie à se battre. Et donc on arrive à des moments à être épuisé, à être fatigué, à être en colère parce que c'est une colère qui est légitime. On a l'impression de se battre un peu contre le monde entier pour faire simplement valoir cette différence et ce droit de vivre avec les autres et au milieu des autres. Parce que ces enfants, on cherche à les cacher. On n'en veut pas. Les professeurs ne sont pas toujours... Alors, il y a beaucoup de professeurs formidables, merveilleux, mais pas toujours. Il y en a qui sont un petit peu réfractaires en disant « Oui, mais est-ce qu'un enfant handicapé a vraiment sa place en France ?» Alors moi, enfin dans une école, et donc si vous voulez, moi qui suis d'origine italienne, c'est vrai que j'ai vu un pays comme l'Italie qui, depuis les années 60, a fermé tous ses instituts pour mettre tous ses enfants handicapés à l'école. Donc c'est une autre vision, et ils sont habitués en fait à toutes les différences, parce qu'il y a tous les handicaps dans ces écoles. En France, ça commence, mais voilà, les mentalités ont du mal quand même à évoluer, et c'est pas toujours évident, même pour les enfants autistes, d'être à l'école parce qu'il y a des insultes, des regards, des moqueries, parfois des incompréhensions parce qu'ils sont sans filtre, ces enfants.
Bien sûr.
Donc ils disent ce qu'ils pensent. Essayez toute une journée, vous, de dire ce que vous pensez vraiment. C'est quand même extraordinaire. Donc parfois, voilà, ils disent au prof, votre cours n'était pas très amusant, était plutôt ennuyeux. Donc voilà, ça crée des situations parfois un petit peu compliquées, mais c'est des enfants avec plein de richesses,
plein
de compétences.
Oui. Et qui font avancer comme je disais tout à l'heure, qui leur richesse nous font avancer plutôt. Ça me faisait penser justement à une émission que j'avais fait il y a 3 ans quand je débutais sur Europe 1 sur un bouquin qui avait été écrit autour d'une vie sans mensonges et qui parlait d'un monde où le mensonge n'existerait pas. Et je peux vous dire que c'était c'était le wild total, parce que
c'est ça. Mais c'est un peu le monde des personnes autistes, et donc ils vous apprennent à le devenir. C'est vrai que j'ai vu même moi mon évolution, c'est-à-dire que bon, je dis ce que je pense maintenant. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on s'habitue comme ça à cette vérité qui parfois peut être crue, mais à l'école avec les codes, parfois ça passe mal. Donc il faut que tous ces gens s'habituent à tout ça, mais c'est des enfants adorables qui sont très heureux d'être à l'école parmi les autres. C'est leur place. Il faut plus qu'ils soient comme ça enfermés dans des murs, enfermés dans des instituts. Ça y est, il faut tourner la page de cette France-là qui a mis ces personnes handicapées dans des lieux comme ça, dans des lieux fermés où on les voyait pas, où on les cachait. Aujourd'hui, il faut voir le handicap, faut voir la différence, l'accepter, et puis ça enrichit tout le monde. Ça enrichit tout le monde, et c'est ça qu'il faut répéter et marteler.
Mmh. Aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus riche, on le sent. Cette association, en fait, quel est son rôle aujourd'hui ? De venir en aide à ces jeunes parents qui, comme vous, il y a maintenant...
Alors, en fait, on fait plein de choses. On a des ateliers artistiques. Donc, on les fait chanter, on les fait danser, on a des cours de théâtre. Voilà, c'était avant évidemment le Covid. Donc, on avait plein d'ateliers dans les écoles, dans les conservatoires. Et ça, c'est un grand bonheur parce que c'est vraiment une page où ils peuvent vraiment s'exprimer, laisser libre à leur créativité, à leurs émotions. Donc, comme ils sont vraiment très riches et qu'ils se contiennent beaucoup, là, ils lâchent tout et il y a des moments magnifiques. Alors, l'association, elle est là aussi pour les défendre, pour défendre vraiment le droit des personnes autistes, donc lutter contre toutes les discriminations. Et on a fait beaucoup de choses aussi pour les faire intégrer à l'école, les faire intégrer dans des clubs sportifs, parce qu'avant, c'était pas le cas. Donc, on a signé des conventions avec toutes les fédérations de sport pour les inclure dans des clubs de sport, parce que c'est important, c'est des enfants comme les autres. Ils ont besoin de faire de la musique, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin d'avoir des copains. Vraiment, on travaille à l'inclusion. C'est vraiment le plus gros de notre travail. Et puis, évidemment, on aide les parents, parce que les parents nous appellent à n'importe quelle heure. On est tous des parents bénévoles. On n'a aucun salarié, pas de subvention publique. Donc, c'est vraiment une association où tout le monde aide vraiment et est là pour aider. Donc, on a nos numéros de portable sur les sites. N'importe qui peut nous appeler à n'importe quelle heure. On essaye d'être là tout le temps. Et puis aujourd'hui, on a aussi un coup de gueule parce que nos enfants ont servi de cobayes pour des expérimentations avec des médecins un peu scrupuleux qui se sont servis d'eux pour essayer plein de traitements. Donc SOS, c'est fait pour ça aussi, c'est-à-dire que quand des parents viennent nous voir en nous disant il y a des médecins qui tentent d'essayer des traitements sur des enfants autistes, on est là aussi pour alerter les agences de santé, ce qu'on a fait. D'où mon dernier livre, le livre noir de l'autisme, parce que on est là pour être heureux, mais on est là aussi quand ça va mal, quand il y a des choses injustes, quand il y a des choses qui font souffrir des parents, les enfants, et on est là pour évidemment pour être cette alerte, cette veille nécessaire pour dire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos enfants non plus. Donc c'est tout ça, et c'est bien sûr parfois aussi des discriminations, des parents qui nous appellent en disant on a insulté mon fils de sale autiste, donc c'est plein de choses, c'est plein de choses comme ça. Voilà.
Très bien, Magali, merci beaucoup pour votre intervention ce soir sur Antenne d'Europe 1, et puis bravo pour ce combat, mais qui est un combat inné, je le sais, qui est un combat de toute une vie. Embrassez bien Ruben pour nous. Et
oui,
puis, je vous envoie plein de force pour ce qui reste
merci,
à faire.
Merci, j'adore
et
votre émission et merci pour votre sensibilité.
Je vous en prie.
Vraiment.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir.